Le journal est présenté par Caroline Félix. Bonjour Caroline.
Bonjour, bonjour à tous.
Au Sri Lanka, 15 personnes sont mortes dans un raid de la police des kamikazes impliquées dans l'attentat de dimanche se sont fait exploser pendant l'assaut. On sera sur place avec notre correspondant Sébastien Farcy.
Les Espagnols appelés aux urnes ce week-end avec une situation inédite depuis la fin du franquisme. L'extrême droite est en bonne position pour entrer au Parlement.
Embellie de l'économie américaine, 3,2% de croissance, Donald Trump se réjouit, mais attention, c'est une bonne nouvelle à double tranchant.
En Afrique du Sud, les anciens de Soweto se souviennent 25 ans après les premières élections libres. Reportage à suivre.
En France, les Gilets jaunes rempilent aujourd'hui pour un 24e acte avec une nouveauté, une marche des convergences à Paris avec syndicats et partis politiques.
La défiance des Européens face aux vaccins. Pour un tiers d'entre eux, les vaccins fragilisent le système immunitaire. Il suffit d'en parler pour désamorcer les peurs, explique une spécialiste dans ce journal. Et puis, crise de confiance aussi pour le géant pharmaceutique Bayer. Les actionnaires ont voté en majorité contre leur direction. Ils critiquent le rachat de Monsanto qui leur a coûté 62 milliards de dollars et beaucoup d'ennuis judiciaires.
Après ce journal, l'invité de la deuxième heure des matins du samedi, qui est déjà dans ce studio, est l'avocat Jean-Pierre Mignard, réputé proche d'Emmanuel Macron.
15 morts cette nuit au Sri Lanka pendant un assaut de la police. 3 membres présumés du groupe État islamique se sont fait exploser. Explosion qui a tué 3 femmes et 6 enfants. 3 autres corps, probablement des kamikazes, se sont fait exploser pendant cette opération. Ils sont soupçonnés d'avoir participé aux attentats du dimanche de Pâques. Sébastien Farcy à Colombo.
Une deuxième cache supposée de terroristes islamistes a été trouvée dans la ville de Kalmunai, à l'est du Sri Lanka. Quand les forces de sécurité sont arrivées, elles ont essuyé des tirs et ont tué plusieurs assaillants. Cela arrive quelques heures après la découverte de ce qui ressemble au quartier général de ces terroristes, à quelques kilomètres de là. Cette fois, en pleine nuit, les terroristes présumés ont préféré se faire exploser quand les militaires sont arrivés et 8 djihadistes sont morts, emportant avec eux 6 enfants. Sur place, les autorités ont trouvé un vrai entrepôt de terroristes. 150 bâtons d'explosifs à base de nitroglycérine, 100 000 billes, des détonateurs, un drone et enfin un grand drapeau noir et blanc écrit en arabe, le symbole de l'organisation de l'État islamique. Ce lieu découvert dans la nuit pourrait donc être le repère du groupe de terroristes qui a attaqué les hôtels et les églises du pays dimanche dernier, surtout que ce bourg se situe à une trentaine de kilomètres seulement de la ville d'origine de Zaharam Hashim, le cerveau présumé des attentats.
Sébastien Farcy à Colombo.
Incertitude en Espagne à la veille des élections législatives.
La gauche est en tête des sondages, mais le parti pourrait ne pas obtenir une majorité suffisante pour gouverner le pays. De l'autre côté de l'échiquier politique, un nouvel acteur devrait peser. Le parti d'extrême droite Vox pourrait entrer au Parlement. Il est crédité de 10 à 12% des voix. Hier, il tenait son dernier meeting de campagne à Madrid, appuyant plus que jamais une polarisation de la société. Reportage de notre envoyée spéciale Isabelle Labéry.
Un fuerte aplauso para Santiago Abascal.
Allure conquérante sur son estrade, Santiago Abascal attaque l'une de ses cibles favorites, les gauchistes.
Nos estigmatizan, se ríen de todos nosotros.
Ils nous stigmatisent, ils se moquent en disant que nous ne sommes pas modernes.
Porque el amor a la familia,
mais l'amour de la famille, l'amour de la patrie, le respect de la foi sont des valeurs éternelles.
Eternos. Viva España.
Le patron de Vox a libéré un sentiment nationaliste en sommeil depuis Franco.
Avant, quand tu sortais le drapeau espagnol, on te traitait de facho. Mais grâce à ce parti, tu peux le faire sans honte. C'est juste le symbole de l'unité de l'Espagne.
Pendant l'hymne national, spontanément, Josefina salue, bras droit tendu vers le ciel.
C'est parce que je suis espagnole.
Non, non, tu peux pas. Ça, c'est associé aux nazis.
Pas du tout. Pour moi, ça montre juste que je suis de droite.
Un peu plus loin, un groupe de quinquas, toutes catholiques pratiquantes.
Ton père, Natalia, moi je m'en fiche qu'il soit socialiste. Mais lui, c'est épouvantable, il n'a pas de respect. Pour lui, je suis la facho, la réac.
Ils se disent démocrates, mais ils n'acceptent pas ceux qui veulent voter pour Vox.
Hier, le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, a mis en garde. L'extrême droite pourrait obtenir un score bien plus élevé que ne le prédisent les sondages.
Voilà pour Vox. Le parti fait campagne face à d'autres formations récentes depuis les élections de décembre 2015 qui ont marqué l'irruption des mouvements Podemos et Ciudadanos. Après une trentaine d'années de bipartisme, l'instabilité politique s'est installée dans le pays. C'est le constat de Manuel Peloy. Elle est professeure à l'université d'Angers, spécialiste de l'Espagne contemporaine.
Oui, on peut le dire, elle joue son destin national par rapport à la question de l'unité de la Catalogne, par rapport au futur des politiques sociales menées par le président actuel. Et elle joue aussi son destin européen parce qu'il s'agit de savoir si l'Espagne va se rapprocher des populistes qui ont triomphé dans une partie de l'Europe ou au contraire, est-ce que va triompher une coalition contre l'extrême droite qui est en train de se mettre en place. Ça avait commencé avec Ciudadanos qui était en 2006 et puis Vox et Podemos en 2013 et 2014. Et ces partis, je pense qu'ils vont faire plus que jouer les trublions puisque Vox a déjà fait une percée significative aux élections régionales andalouses. Vox rassemble beaucoup de gens sur le thème de l'unité, effectivement. Et évidemment, la question catalane a accéléré cette fin du bipartisme et on n'est plus à deux partis, mais à cinq partis et qui ont une importance capitale puisqu'ils vont chercher à négocier des alliances. Donc on a deux gros blocs hein, qui se forment, notamment Ciudadanos et le PP et le Parti Populaire et Vox d'un côté, et Podemos et les socialistes. Donc c'est des coalitions en vue.
Manuel Peloy, invité hier soir du journal de 22h02, Clarence Rodriguez. Aux États-Unis, Donald Trump a le sourire. L'économie américaine se porte bien. La croissance est très supérieure aux prévisions pour ce début d'année. Au premier trimestre, celle-ci a atteint 3,2%. Un chiffre incroyable selon le président, même si ça pourrait ne pas durer. À New York, Loïc Loury.
Une croissance en hausse et un taux de chômage à son plus bas niveau depuis presque 50 ans. L'économie américaine semble plus forte que jamais et Donald Trump peut triompher. Nous sommes numéro 1, affirmait hier le président. Sauf que derrière ces 3,2% de croissance en rythme annuel, la réalité est un peu plus complexe dans un contexte notamment de guerre commerciale avec la Chine. Les importations en effet ont ralenti, la faute à des tarifs douaniers en hausse, alors que dans le même temps, les exportations se portaient bien. Résultat, une balance commerciale rééquilibrée à l'origine de cette croissance très favorable. Autre facteur positif, mais à double tranchant, le fort investissement des entreprises dans leurs propres stocks, autant de marchandises qui ne seront pas produites dans les prochains mois. Enfin, la mauvaise passe du géant Boeing, contraint de stopper les livraisons de son 737 Max, devrait peser. D'autres paramètres, toutefois, incitent à l'optimisme, notamment, paradoxalement, une consommation des ménages en forte baisse qui pourrait rebondir l'hiver passé. En attendant les prochains chiffres, le président américain, lui, fait de la politique et avec ses 3% de croissance, il a de quoi se réjouir.
Les États-Unis qui ne ratifieront pas le traité sur le commerce des armes, annonce de Donald Trump hier. Son prédécesseur Barack Obama l'avait signé, lui, en 2013. Le texte permet de réguler les ventes d'armes pour éviter qu'elles soient vendues aux pays qui bafouent les droits de l'homme. Le lobby américain des armes, la NRA, s'est toujours opposé à ce traité. On fait un saut dans le temps à présent, 25 ans en arrière, le 27 avril 1994 en Afrique du Sud, ce sont les premières élections libres après la fin de l'apartheid, un scrutin qui va propulser Nelson Mandela et son parti, la ANC, à la tête du pays. En un quart de siècle, le quotidien des habitants a changé, surtout à Soweto, à côté de Johannesburg. C'est ce township noir construit sous l'apartheid en dehors de la ville. Depuis 1994, les habitants ont vu leur quartier évoluer. Claire Bargelès.
Solide Sessané, 78 ans, nous accueille chez lui. Une maison en dur avec plusieurs pièces dont il n'aurait pas pu rêver dans son enfance.
Voilà, c'est chez moi. Tout ça, c'est notre fierté. À l'époque, on n'avait pas le droit de vivre dans le confort. On était ici pour être utilisés. Puis lorsqu'on n'avait plus besoin de nous, on retournait dans nos villages.
Mais en 1976, le township se révolte. Des milliers de jeunes descendent dans la rue et la police ouvre le feu. Les jours suivants, le reste du pays s'embrase, faisant des centaines de morts. Zonke Mangagné avait alors 18 ans.
C'était la première fois que l'on voyait ces gros véhicules de soldats, une époque effrayante. Cela a bien changé. C'est devenu un endroit agréable et nous avons pu bénéficier de ces changements.
Soweto s'est en effet transformé avec ses centres commerciaux et ses cars de touristes. Mais tous n'ont pas vu leurs rêves exaucés. Evelyne Dladamba approche la soixantaine et elle vit toujours dans une cabane en tôle.
Cette pièce, c'est la cuisine aussi, la chambre. Si je veux me laver, c'est ici, devant mes enfants qui voient tout, rien n'a changé. À l'époque, nous avions espoir lorsque Mandela a été libéré, mais rien ne s'est arrangé.
Plus d'un million d'habitants vivent désormais à Soweto et tous n'ont pas vu les promesses du passé se réaliser.
Et on vient de l'apprendre, le procès de Carlos Ghosn pourrait être reporté à l'année 2020. Ce sont les médias japonais qui l'affirment aujourd'hui. Il devait se tenir à la base en septembre.
France Culture, 8h10, suite du journal avec l'actualité française. Après les annonces, les gilets jaunes maintiennent la pression sur le gouvernement.
À Paris, il y aura deux cortèges aujourd'hui, un tour des sièges des médias et une convergence présentée comme inédite. Un appel signé par un collectif associatif, syndical et partisan. Parmi les signataires, la CGT, les Gilets roses ou encore la France insoumise. L'objectif est de greffer les mécontents contre la politique menée par le gouvernement quelques jours avant le grand défilé du 1er mai. Une convergence déjà tentée dans le passé sans réussite, mais cette fois le secrétaire général de la Fédération du commerce de la CGT, Amar Laga, veut croire aux liens créés entre les mouvements ces dernières semaines.
Depuis des mois dans des territoires, si je prends les Bouches-du-Rhône, parce qu'ils sont, font partie aussi des signataires, dans les Bouches-du-Rhône, tous les samedis, depuis des mois, il y a une convergence, il y a des hommes et des femmes qui se réunissent, qui manifestent ensemble avec leur gilet rouge, jaune. Vous prenez dans le 94 aussi, et dans d'autres départements, ça fait des mois que la convergence elle est mise dans les territoires. Et aujourd'hui, effectivement, on estime qu'il faut peut-être donner du sens à tout cela et créer un nouveau rapport de force pour faire reculer ce gouvernement. Si chacun reste dans son coin, ça ne marchera pas.
Et la convergence est loin d'être acquise. Pourtant, côté gilets jaunes, certains redoutent un jeu opportuniste de la part des syndicats. C'est le cas de l'une des figures du mouvement, Maxime Nicole.
Les syndicats jouent une carte, on va dire. C'est un peu leur dernier joker. C'est-à-dire que si il vient à avoir des négociations suite aux mobilisations des 2-3 prochaines semaines et que les syndicats en profitent pour s'infiltrer dans cette petite brèche et avoir des petites miettes de pain, je pense qu'énormément de personnes se feront une idée définitive de ce qu'est l'intérêt d'un syndicat. Moi, j'ai un œil qui est très critique là-dessus. Je suis persuadé à 3000% que les syndicats en profiteront. Mais c'est pour ça que je participe pas à la convergence. Comme ça, on viendra pas me dire que j'ai participé encore une fois à une grande mascarade.
Et pour l'acte 24, les Gilets jaunes seront surtout à Strasbourg pour un rendez-vous national, voire international. Des Belges, des Allemands, des Suisses sont attendus. Le périphérique lyonnais devrait être le théâtre d'une opération escargot. Et enfin, des mobilisations sont prévues à Toulouse. Les vaccins sont dangereux pour la santé. Voilà une idée fausse mais bien répandue en Europe. C'est le constat d'un sondage Eurobaromètre réalisé dans 16 pays de l'Union. Un tiers des personnes interrogées pensent que les vaccins fragilisent le système immunitaire. La défiance qui persiste en février, d'après une enquête IFOP, 43% des Français pensaient que les laboratoires étaient de mèche avec les autorités pour cacher la nocivité des vaccins. Alors pourquoi cette méfiance? Pour Lise Barnéou, journaliste scientifique, on ne parle pas assez des vaccins.
En vérité, quand on se penche un peu plus dans les détails, on se rend compte que soit c'est certains vaccins en particulier, soit même certaines substances en particulier dans certains vaccins. Je pense par exemple à l'aluminium en France, c'est une des raisons de défiance importante. J'entends tout à fait les explications classiques qui sont les maladies infectieuses ont disparu, donc on ne s'en méfie plus, ou alors on agit plus vis-à-vis de sa propre santé, on réfléchit moins à la santé collective. Mais je crois qu'il y a un autre argument qui n'est jamais mis en avant, qui est cette espèce de chape de plomb qu'on a mis au-dessus des vaccins. On n'a jamais pris le temps d'expliquer les choses de manière posée et considérer les vaccins comme des médicaments et à ce titre d'accepter le fait que non, ils ne sont pas forcément efficaces à 100%. Ils ne sont pas exempts d'effets secondaires, c'est des médicaments. Mais voilà, il faut en fait analyser les balances bénéfices-risques de chaque vaccin parce que chaque vaccin a des objectifs différents. Et je trouve que ça n'a jamais été suffisamment fait et donc il y a une espèce d'incertitude qui fait peur en fait.
Lise Barnéou, auteur du livre « Immuniser un nouveau regard sur les vaccins ». Assemblée générale houleuse pour le géant pharmaceutique Bayer. Les actionnaires du groupe allemand ont désavoué leur direction à plus de 55% hier. Ils sont inquiets des conséquences du coûteux rachat de l'autre géant, Monsanto. Depuis l'acquisition il y a moins d'un an, le groupe a perdu 40% de sa valeur. Et dehors, au moment du vote, des militants écologistes ont donné de la voix devant le siège. On passe à la météo. Aujourd'hui, un temps instable avec des averses et du vent sur le nord du pays. La perturbation s'étendra ce matin du nord de la Garonne au nord-est. Ce seront des pluies continues, mais restant faibles. Au niveau des températures, les minimales seront comprises entre 5 et 10 degrés en général.